Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bukavu. Voici les titres de votre journal vespéral. Au moins 8 quartiers de la ville de Goma sont privés d'eau potable depuis 3 jours. Du coup, des milliers de personnes parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau potable dans le lac Kivu. Le présidium de la coalition Lamuka fustige la nomination de Mabiku Totokani au poste de secrétaire exécutif de la CENI. Ce n'est pas l'avis de l'UDPS. Le député national Ntumba Tiabola estime que le concerné a l'expertise requise pour ce poste. L'invité de ce journal est Honoré Kapuku Mushila, membre de la Voix des Sans-Voix. Il conduit une délégation de sa structure en Mbandaka dans le cadre d'une sensibilisation des acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moins 8 quartiers périphériques sur les 18 que compte la ville de Goma au nord Kivu sont privés d'eau potable depuis 3 jours. Cette situation est consécutive à une panne technique intervenue dans les réseaux de distribution locale avec l'éclatement de la conduite mère des refoulements au niveau du cercle sportif en plein centre-ville. Du coup, des milliers de personnes parcourent de longues distances pour s'approvisionner en eau dans le lac Kivu. Gabriel Ouamenya pour plus de détails.
Les quartiers les plus touchés par cette pénurie d'eau potable sont par exemple les quartiers les plus chauds comme Majengo, Bouéné ou Katoï. 5 autres quartiers comme Virunga, Imbi, Bujovu, Kasika et Kaembe ne sont pas épargnés par cette rareté d'eau. Ce mardi matin, on pouvait apercevoir sur les principales rues de la ville plusieurs centaines d'hommes, femmes et jeunes, tous des bidons jaunes en bandoulière, se déversaient sur les lacs à la recherche de l'eau. Suivez les témoignages de cet enfant d'environ 8 ans que nous avons rencontré au niveau de la 34e région militaire.
Chez nous, nous souffrons à cause de l'eau. Sinon, les gens vont mourir dans les maisons. Moins descendre au lac pour trouver l'eau. Je viens de Majengo vers marché.
Les spécialistes de santé redoutent déjà l'apparition des maladies d'origine hydrique, mais le directeur provincial de la Régie des eaux rassure David Angoya.
Je crois que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Je crois que ça, s'il n'y a pas d'empêchement en augmentation d'énergie électrique, nous allons rétablir la distribution, la desserte vers cette zone. Donc, c'est la technique, voilà. Donc, je ne sais pas vous dire, c'est à 10h05.
Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
Rareté d'eau potable également signalée au sud Kivu, où la population de Bukavu se plaint du manque persistant de cette denrée depuis plusieurs semaines maintenant. Des quartiers entiers restent sans eau, ce qui oblige la population à se diriger vers les bonnes fontaines des routines ou encore vers le lac pour s'approvisionner. La direction provinciale de la Régie des eaux appelle la population au calme et à la patience, disant que les techniciens sont à l'œuvre pour remédier à cette situation. Des détails avec Rachel Kessembangou.
Nous sommes au quartier Ngouba, un des quartiers les plus touchés par ce manque d'eau. Les habitants font des kilomètres jusqu'au lac pour se procurer d'eau. Cette eau qui n'est pas potable.
Les gens passent des semaines sans avoir de l'eau ici à Ngouba. Mais si la Régie des eaux pouvait faire aussi son travail pour qu'on puisse avoir de l'eau.
Souvent, moi, quand je quitte le boulot, j'arrive à la maison, il n'y a pas d'eau. Je suis obligé de payer les transports pour aller chercher de l'eau.
Envoyez-nous de l'eau. Vraiment, ça doit être favorable à toute la population de Ngouba. Merci.
La Régie des eaux s'est dit être à l'œuvre pour résoudre au plus vite ce problème. Certes, jusque-là, la solution est loin d'être trouvée. Le directeur provincial de la Régie des eaux Sud Kivu, Ntumba Kayembe.
Nous faisons tout. Nous remettons les histoires et puis ça ne répond pas. Nous avons acheté des histoires à Goma. On a ramené, ça n'a pas répondu. Quand il n'y a pas d'eau, ça me fait très mal. Il y a des équipes techniques qui sont à pied d'œuvre. On doit résoudre cette difficulté-là d'ici-là.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Et puis, déclaré en décembre dernier par l'autorité provinciale, des nouveaux cas de l'épidémie des monkeypox sont enregistrés dans le Maniema. À ce jour, dans la zone de santé de Tunda, 250 cas sont recensés, dont 24 décès. Cette montée en flèche des cas est justifiée par le non-respect par la population des consignes, déplore le docteur Kibungi Mutanga Junior, ministre provincial de la Santé. Il est dit au micro de Florence Kizalunga.
Comme avait déclaré son excellence, monsieur le gouverneur, que cette zone de santé était proie à l'épidémie des monkeypox, qui mille des cas aujourd'hui, nous avons 251 cas et 24 décès. Oui, lors de la déclaration, on était à 191 cas et 24 décès, et aujourd'hui, on est à 251, c'est-à-dire quelques cas se sont augmentés. Comme c'est une maladie contagieuse, il y a une franche de la communauté qui n'a pas pu respecter les mesures de prévention qui ont été édictées. Et cela a fait que les cas ont augmenté. Mais pour la semaine dernière, selon les rapports à notre possession, il y a zéro cas comme nouveau cas. Oui, nous avons été assistés par l'OMS parce que l'OMS avait envoyé un technicien à la zone de santé sur le plan technique. Et monsieur a accompagné la zone de santé par rapport à l'installation des comités d'élite et autres. Nous ne pouvons que demander à la population de respecter les mesures de prévention telles que recommandées. Dehors des monkeypox, il y a aussi les cas de rougeole qui ravagent cette zone de santé.
Le présidium de la coalition Lamuka fustige la nomination de Mabika Totokani comme secrétaire exécutif de la commission électorale de la Commission nationale électorale indépendante. Cette déclaration est contenue dans un communiqué publié hier lundi à Kinshasa. Dans ce communiqué, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito estiment que cette nomination vient s'ajouter à d'autres, notamment à la Cour constitutionnelle, dans le but de faciliter la fraude aux élections de 2023. Pour eux, le fait que Mabiku Totokani soit un ancien conseiller du président de la République enlève toute crédibilité à ces élections. On écoute Prince Epengé, l'un des porte-parole de la Mouka.
Un manipulateur maladroit, il tente de distraire tout le monde en posant les jalons à la fois de sa volonté ferme de tricher lors des élections de 2023 ou de renvoyer celle-ci au calende grec. Monsieur Félix Tshilombo a tellement peur des élections qu'il y veut transformer la CENI en sa circonscription électorale. Inacceptable. Après avoir illégalement nommé ces hommes à la Cour constitutionnelle, les voici en train de planifier la fraude en nommant ses amis et membres de l'UDPS à la présidence de la CENI au niveau du poste de rapporteur et maintenant en octroyant un de ses anciens conseillers et membres de l'UDPS le poste stratégique de secrétaire exécutif national.
En réaction, le député national Ntumba Tiabola Bintou, cadre de l'UDPS, estime que Mabiku Totokani a l'expertise requise pour travailler au poste de secrétaire exécutif national de la CENI. Il ajoute que ceux qui crient à la planification de la fraude pour les élections de 2023 sont ceux qui ont peur car l'UDPS va les remporter. On écoute le député national Ntumba Tiabola Bintou.
L'UDPS, c'est un parti politique qui a milité pendant plus de 37 ans pour l'avènement de la démocratie et l'état des droits. L'UDPS a gagné les élections de 2018 sans aucun membre à la CENI, ni à la Cour constitutionnelle. L'UDPS se prépare à gagner encore les élections de 2023. Le nouveau secrétaire général de la CENI est un expert que même la dynamique de l'opposition politique avait envoyé pour auditer les fichiers électoraux le 9 mai 2018. Monsieur Toto Totokani Mabiku a de l'expertise à mettre au service de son pays pour l'organisation des meilleures élections 2023. Nous comprenons que les gens qui font ce genre de déclarations ont simplement peur des élections, qu'ils se préparent à participer aux élections de 2023, que l'UDPS va certainement remporter. Ce ne sont ni les membres de la CENI, ni les membres de la Cour constitutionnelle qui votent. C'est la population congolaise qui avait voté l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous espérons bien qu'en 2023, la population va renouveler encore une fois de plus sa confiance au président Félix. Donc, il n'y a pas du tout de tricherie.
C'est un dossier signé Alain Hirong. Le syndicat Force syndicale nationale, Focinat, salue la décision du ministre Lepesté de supprimer la perception de l'impôt sur le revenu IPR sur le salaire des enseignants. Ce syndicat l'a fait savoir ce mardi à Kinshasa dans une déclaration à Radio Kapi. Son rapporteur, Mélis Ndelo, affirme que cette décision va beaucoup soulager les enseignants. Il a été joint par Alain Hirong.
Partant du principe droit et devoir, il est de droit pour l'État congolais d'appliquer l'hyper car l'État ne vit que de taxes, impôts et devants ce prêt. Mais nous devons aussi nous poser la question, est-ce que l'État, avant d'appliquer ce droit, a-t-il accompli ses devoirs à l'endroit de nos enseignants? Je vous répondrai non. Alors, dans la mesure où l'État congolais ne sait pas appliquer ce devoir, mais pourquoi réclamer le droit? La retenue de l'hyper dans le salaire de chaque enseignant avait des effets néfastes dans le quotidien des enseignants. Voilà pourquoi au nom de la force syndicale nationale, nous tenons vivement à remercier et à saluer la bravoure du ministre de l'EPST, en l'occurrence le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour cette initiative de stopper effectivement la retenue au salaire des enseignants.
Première audience hier lundi au tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo dans l'affaire qui oppose la ferme Espoir de l'ancien président Joseph Kabila à Timothée Mbuya, responsable de l'ONG Justicia Asbel. Ce dernier est poursuivi pour imputation dommageable pour avoir dénoncé dans un communiqué de presse du 30 septembre dernier que la ferme Espoir a spolié de manière manifeste le parc national des Kundelungu en érigeant une clôture au-delà de ses limites et en privant le parc de la faune et de flore sur une grande étendue. Des précisions avec Jean Gandou.
Cette première audience a duré une trentaine de minutes. Et pour cause, les avocats de Timothée Mbuya ont démontré que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi parce que l'exploit d'assignation de leur client a été déposé non pas à son domicile comme l'exige la loi, mais au bureau de l'ONG Justice à Asbel. Après une longue joute verbale contradictoire entre les représentants de deux parties en présence, à savoir la ferme Espoir et Timothée Mbuya, le président de Seyan a rejoint les préoccupations des avocats de Timothée Mbuya et renvoyé les deux parties. Pendant cette joute verbale, le principal incriminé, tout des blancs vêtus et les regards cachés derrière les lunettes, suivaient attentivement les différentes prises de parole. À la sortie de l'audience, il a déclaré que
les intimidations et harcèlements judiciaires ne vont pas nous décourager. Ce que nous avons dit est vrai, c'est vérifiable et notre lutte, c'est que l'environnement soit protégé. Et nous croyons que quelle que soit l'issue de la procédure, le juge finira un jour par s'imprégner du contenu de notre rapport et remettre aussi l'État congolais dans ses droits.
Les avocats de la ferme Espoir se sont dit non découragés. Ils promettent des régulariser la saisine pour que ce procès se tienne afin que leur cliente, la ferme Espoir, soit rétablie dans ses droits. Et devant le parvis du palais de justice, quelques activistes de droits de l'homme arboraient des pancartes portant des messages de soutien à leur collègue Timothée Mbuya. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
En Ituri, sept présumés assaillants de la Codeco capturés par l'armée ont été présentés hier lundi au gouverneur de province à Bounia. Parmi ces rebelles figure l'un des fondateurs et féticheurs de ce groupe armé. Des habitants du territoire de Djougou saluent la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO dans la traque de ces miliciens. Les porte-paroles de FARDC en Ituri exhortent la population à renforcer la collaboration avec les forces de sécurité pour venir à bout de ces mouvements armés. Des détails avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis la semaine dernière que l'armée a lancé des offensives contre un bastion du groupe armé Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais, URDPC, Barco-Déco, dans plusieurs entités des territoires des Djougou et Mahagi. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, plusieurs miliciens avec leurs armes ont été arrêtés et d'autres neutralisés au cours de ces opérations qui se poursuivent. Le lieutenant Jules Ngongo indique que sept assaillants capturés sur la ligne des fronts au village de Wada ont été présentés au gouverneur des provinces hier. Parmi eux, un féticheur. La même source indique qu'à ces jours, l'armée a réussi à mettre la main sur une centaine des membres de ces groupes armés, tous mis à la disposition de la justice militaire. Certains habitants saluent l'appui des casques bleus de la MONUSCO aux côtés des militaires congolais dans cette lutte contre les groupes armés. Les autorités militaires appellent quant à elles les brebis galeuses qui détiennent encore les armes à les rendre afin de rejoindre le processus des DDRCS qui vient d'être lancé. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Libye, des ONG s'inquiètent après l'arrestation hier lundi de quelques 600 migrants à Tripoli. Ils campaient depuis octobre 2021 devant le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés malgré la fermeture de ce centre le mois dernier et faisaient partie d'un groupe de 2000 personnes raflées lors d'un raid et placées dans un centre de rétention. La police leur avait demandé de quitter les lieux, ce qui avait poussé un premier groupe de 200 personnes à le faire. Les 600 qui restaient ont, pour leur part, été embarqués dans des bus en direction du centre de rétention officiel de Aïn Zahra. En Guinée, la classe politique est invitée à une rencontre sur la transition en cours. Sous la pression des partis politiques guinéens, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire, a également tutelle des partis politiques, a invité les acteurs à une rencontre pour parler de la transition en cours dans le pays. Une rencontre qui a duré plus de 3 heures sous la présidence de Maurice Condé, ministre de l'administration territoriale.
L'invité.
L'invité de ce journal est Honoré Kapuku Mushila, membre de la Voix des Sans-Voix. Il conduit une délégation de sa structure en Bandaka dans le cadre d'une sensibilisation des acteurs de la société civile sur les droits économiques et socioculturels. Il s'entretient ici avec Paul Richard Malengela.
Monsieur Honoré Kapuku, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Cette fois-ci, vous parlez des droits économiques et socioculturels. Quels sont les principaux droits dont jouissent nos populations?
Les droits économiques, socioculturels sont, comme on les dit, avec tous les droits fondamentaux inhérents à l'homme. On peut citer quand même les droits à l'eau potable. Si on n'a pas de l'eau potable pour toute la population, c'est un problème de santé qui va se poser. Nous avons aussi le droit à l'électricité, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation. Ce n'est pas n'importe quelle alimentation, une bonne alimentation. Le droit au travail, le droit à la culture. Parfois, nous-mêmes, nous minimisons notre culture. Notre langue, parfois, est souvent oubliée pendant des manifestations culturelles qu'on organise. Et pourtant, les droits économiques, socioculturels nous rappellent l'utilisation même de la langue autochtone dans notre culture est très, très importante.
Pendant les rencontres.
Ce n'est pas exclu. Si vous allez dans d'autres cieux, on vous parle seulement dans leur dialecte, dans leur langue. Vous allez vous fournir un effort afin de connaître aussi comment parler cette langue-là. Oui. Donc, il y a plusieurs droits. Nous avons le droit à la propriété, donc le droit au logement. C'est un problème sérieux qui se pose. Si vous regardez la province de l'Équateur, il y a des gens qui sont dans des taudis.
En quoi cette sensibilisation va apporter un changement dans ces domaines-là?
Bon, une fois la population qui est ciblée et les autorités qui sont impliquées prennent conscience et vont aussi vulgariser les mêmes droits auprès de la population, chacun de nous saura comment les revendiquer. Et s'il y a revendication, c'est une façon de demander à l'État qui a l'obligation de les réaliser, les protéger et les respecter, de faire en sorte qu'il y ait jouissance de tous ces droits. Et si l'État fournit un effort, ne fût-ce que de réaliser au minimum, donc à ce moment-là, on peut espérer avoir un changement. C'est le développement même du pays. Vous regardez très bien avec les infrastructures routières, les routes de dessertes agricoles dans la province de l'Équateur posent des problèmes sérieux. Comme conséquence, la misère en Bandaka. Les gens souffrent. Ils nous disent il manque même le poisson, mais nous sommes entourés des eaux. Jusqu'à quand la population va commencer à crier? Tout ça, c'est manque de connaissances en la matière. Une fois toute la population mobilisée, sensibilisée, pourra revendiquer, je pense que l'État ne pourra pas garder sourde oreille pour satisfaire à leurs besoins.
Enfin, en cas de violation des droits économiques, socioculturels, que doit faire la victime?
D'une manière générale, ici, ce sont des cas qui constituent des dossiers d'une communauté quelconque, d'un peuple, de la population, mais des cas isolés dans le cadre de la liberté syndicale, droit au travail. Je pense que la personne qui se sent vraiment touchée, il y a une procédure à suivre.
Laquelle?
Il y a la procédure d'abord administrative. S'il s'agit d'un problème de travail, il y a quand même au niveau de l'administration publique toute une procédure à suivre. S'il ne trouve pas gain de cause, c'est à ce moment-là qu'il peut contacter aussi les structures de la société civile, les droits humains que nous sommes, pour l'accompagner dans sa démarche. Je pense que tout pourra aboutir. Il y a la justice. Il est dit dans les fondamentaux des droits de l'homme que tout être humain bénéficie les mêmes droits que tout autre. Il n'y a pas de discrimination. Le principe d'égalité existe et de justice. Il doit trouver la juridiction compétente Et à cela, s'il n'est pas encore satisfait, il y a toujours la possibilité d'interjeter appel. Chaque fois, être assisté d'un avocat, les gens qui maîtrisent le domaine, puisque seul, parfois, on ne peut pas comprendre le méandre, mais on peut se faire embourber par n'importe qui.
On aurait Kapoko de la VSV, Radio Kapi vous dit merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et c'était notre invité, Honoré Kapoko Mushila, ce membre de la Voix des Sans Voix, s'entretenait avec Paul Richard Malingela. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté.